C'est un sujet passionnant que nous avons entamé la semaine dernière, celui de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour d'abord à mes deux acolytes, Philippe Noni et Diego Arabal.
Bonjour Philippe Subercase, bonjour Diego Arabal.
Bonjour Philippe Noni, et, bonjour Philippe Subercase.
Et là, vous n'avez pas sursauté, mon cher Diego, cette
non,
fois-ci.
Non, je m'y attendais. Voilà.
Bonjour à tous les deux. Alors, c'est vrai qu'on parle d'un sujet passionnant avec l'auteur que vous avez sélectionné, Philippe. La résistance, on va partir au cœur du Pays Basque avec un homme qui, après la guerre, n'a jamais voulu parler de ce qu'il a fait, donc jamais voulu se mettre en avant aussi. Quelle humilité aussi de cet homme. Et on parle aussi un peu de la famille.
Alors on parle aussi de la famille, quelle humilité, et puis aussi le fait qu'il a été à un moment donné, comme le disait la semaine passée, Agnès Olazabal. Donc bonjour Agnès Olazabal, merci à nouveau de nous accompagner aujourd'hui pour votre livre, donc ce récit, Le Passeur. Ce héros de la résistance qui a conduit 953 personnes en Espagne aux éditions Confident. On en parlait effectivement, comme l'a rappelé Philippe Subercase la semaine passée. Hein, ça se déroule dans les Pyrénées-Atlantiques. Votre papa, comme le dit si bien son nom, était basque. Voilà, votre maman également. Et il s'engage effectivement, dès qu'il y a l'occupation, dans la résistance. Pourquoi votre père s'y engageait? C'était par rapport à ses valeurs? C'était par rapport au fait qu'il ne supportait pas la France, de voir passer la France sous le joug nazi? Est-ce que vous avez pu un jour comprendre quelles étaient ses motivations pour rentrer dans la résistance? C'est pareil pour votre maman.
Oui, c'est surtout François Mazou qui nous racontera, puisque mon père ne nous a rien dit. Bon, ça correspond bien évidemment à ses valeurs. Mais mon père en 42 avait 39 ans. Et donc il ne risquait plus rien en ce qui concerne le STO. Et il connaissait bien la montagne parce qu'il avait été, je crois que ça s'appelle grumier, c'est-à-dire il descendait
les bois,
des arbres, ouais. Voilà, de débardage. Donc il connaissait la montagne basque parce que lui était natif de Bidart, de la côte.
Sur la côte.
Mais
ouais.
il avait été marin jeune et ensuite. Il est venu, il a changé de métier et voilà. Donc il connaissait la montagne. Donc il a rencontré quelle personne en premier, ça nous ne saurons jamais. Éloi Dubosc, que je sais très très très, il y a très longtemps qu'il le connaissait, qui était un grand résistant et qui était à la préfecture de Pau. Et il a dit, moi, si on me fait confiance, moi, je peux vous faire passer, les gars. Faut me faire confiance. Faut me laisser faire comme je le sens. Parce que, comme tous les autres passeurs, chaque passeur avait sa façon propre, son itinéraire propre et ses contacts propres également. Deux passeurs n'allaient pas à la même ferme et ainsi de suite, parce que s'il y avait un passeur qui tombait, ben ça faisait tomber les autres, donc il fallait cloisonner complètement. Voilà, et c'est comme ça, parce qu'il ne voulait pas être sous le joug allemand, il avait eu une enfance un petit peu rude à Bidart avec son papa, et il était courageux. Voilà, tout simplement. Et il voulait rester français, être digne de cette nationalité.
Vous en parlez effectivement de l'enfance de votre père, là en page 141 de votre récit, donc Le Passeur aux éditions Confident. Je vais lire quelques extraits effectivement de ça, qu'on comprenne un peu plus donc effectivement le contexte dans lequel a grandi votre papa.
Oui.
Michel est né à Bidart, sur la côte basque, en 1903, aîné d'une famille de 10 enfants. Son père est un ouvrier qui travaille à la construction du chemin de fer dans la région. La mère élève la couvée, elle perdra 3 bébés. La famille tire le diable par la queue, mais tous les enfants iront à l'école du village. Bidart est un village à cette époque. Le père est une brute. À la maison, il malmène femme et enfants. Michel se rebelle et cela se passe mal. Il n'aura de cesse de s'opposer à son père, le payant bien souvent très cher. Après l'obtention du certificat d'études, Michel va travailler comme marin-pêcheur. C'est là qu'il apprend la mécanique, sa passion. Le voilà un peu éloigné du joug paternel, car il ne rentre pas tous les soirs, couche où il peut, goûte à la liberté et se perd peut-être dans quelques paradis artificiels. Mais il revient régulièrement porter sa maigre paix à la maison pour aider à nourrir ses jeunes sœurs et son frère, et surtout veiller sur sa mère. Son père le fait dispenser du service militaire comme soutien de famille. C'est certainement dommage, car Michel sera alors peut-être rentré dans le rang, ce qui lui aurait évité la prison pour des affaires de coups et blessures. Les coups, il connaît. Il n'a peur de rien, ni de personne. Il travaille ensuite comme chauffeur grumier, conduisant un immense semi-remorque destiné au transport des troncs d'arbres abattus et tiré des pistes forestières par des chevaux. En découvrant la montagne basque, Michel tisse des liens avec les habitants du secteur et les ouvriers des entreprises de débardage. C'est un travail dangereux, le transport du bois, il faut prendre soin les uns des autres. Michel s'y trouve à sa place. C'est aussi ça, en travaillant effectivement là, qu'il a acquis aussi une très bonne connaissance à Niolazabal de la montagne basque pour effectivement se créer un réseau. Permettre ensuite de connaître les chemins, parce que c'est vrai qu'un passeur, il devait savoir effectivement où il fallait aller, comment effacer les traces, où est-ce qu'il pouvait se réfugier, dans quelle bergerie, donc bergerie en montagne, petite cabane de montagne, etc. On va parler du... À Niolazabal, des personnes qu'il a sauvées, hein, sur les 953, il y a un certain nombre de personnes. Vous parlez à un moment donné du pilote de De Gaulle. Racontez-nous cette histoire.
Alors, figurez-vous que quand nous avons cherché en 1983, François Mazou, dont je vous ai parlé dans l'autre émission, qui était chef de réseau de mon père, pas seulement chef de réseau, il avait créé le grand réseau Base Espagne, basé à Madrid. C'est un réseau avec 18 filières d'évasion dans le coin. François Mazou nous dit, nous allons lancer des avis de recherche. Donc il faisait une émission d'histoire sur Radio Oloron et nous invite, et on demande sur l'antenne qui a connu Michel le passeur entre telle période et telle période. Mais il a la bonne idée aussi de nous faire le même avis de recherche sur les journaux de déportés d'anciens combattants. Et c'est là que viennent, on est en 83, 40 ans après, pas le sixième doigt smartphone, comme je dis au bout de la mer. Hein. Donc on écrit à cette période-là. On ne téléphone pas beaucoup. Et là, on reçoit donc tous les témoignages qui viennent de partout. Et nous avons bien évidemment un témoignage de André Frouté, qui lui habite dans le coin. Nous rencontrons son épouse et il nous raconte. Et là, il nous raconte ce qu'il, en 83, comment ça s'est passé, par où ils sont passés. Et lors de l'écriture de ce livre, je cherche à le rencontrer. Donc là, pendant le dernier confinement, j'ai commencé à écrire. Je cherche à le rencontrer, il est décédé. Et je rencontre son épouse qui nous dit « Ah, mais figurez-vous que mon neveu a écrit, a mis sur papier tout, il a tout raconté. » ainsi que le témoignage de son frère. Et on apprend que André avait un frère qui est passé le même jour avec mon père. Et c'est cet homme qui deviendra le pilote du général de Gaulle.
D'accord, ça c'est une histoire.
C'est juste à l'écriture du livre que celui-là on le découvre. Bien évidemment, nous n'avons que ses écrits, puisque le neveu les a fait parler et a écrit, mais nous aurions pu tout aussi bien le rencontrer en 83, mais son frère ne nous en a pas parlé.
Alors, on va parler aussi, quand les passeurs font passer des gens, donc il y a un tarif qui est donné, vous l'évoquez donc oui. dans votre livre, donc en page 54. Alors je vais lire effectivement oui. votre propos dessus. Donc
c'est bien parce que c'est un sujet tabou, ça.
Ouais, c'est un sujet tabou. C'est pour ça que j'ai effectivement vous en parler dans votre livre. Oui. C'est très intéressant. C'est à la fin de la page 53, début de la page 54 que je vais lire.
Oui.
Arrivé au col d'Ochogorigaña, à la frontière espagnole, après avoir cassé la croûte, il nous indique le chemin de terre longeant un ruisseau à sec qui doit nous en mener à Isaba. Cette traversée a été très dure physiquement. Elle a duré 3 jours, par beau temps, mais avec des nuits très froides. Nous couchons sur le foin, dans des cabanes de bergers. Le montant de la traversée est fixé à 2000 francs, mais Michel ne me prend que 1000 francs en raison de mon âge et de mes ressources. Ce geste mérite d'être isolé. Vous mettez une note qui écrit « Ce montant a pu varier ». Se monter parfois à 3000 francs par personne, ce qui est nettement en dessous de la moyenne. Sur une autre chaîne de passage, c'est 10 000 francs selon Émilien Echen, auteur de Les Fougères de la Liberté aux éditions Milan en 1987. Pardon. Mais souvent, le passeur accepte de guider des personnes sans recevoir d'autres bénéfices que des remerciements chaleureux. Il manifeste aussi un esprit de justice car il module son prix selon les ressources du client. Et vous écrivez ensuite, alors ça par contre c'est sur le traitement après qui est réservé aux réfugiés français de l'autre côté des Pyrénées, on l'a un peu évoqué la semaine passée. André Frouté nous éclaire ensuite sur le traitement réservé aux réfugiés français de l'autre côté des Pyrénées. Après avoir franchi la frontière, nous nous faisons arrêter en allant sur Isaba, direction Ustaroz, où nous sommes longuement interrogés dans un hangar désaffecté, privés de nos papiers d'identité. Je suis dépossédé de 6640 francs. Une nouvelle carte espagnole nous est attribuée, datée du 8 juin 1943. C'est ensuite transfert à Pampelune, dans la prison modèle entre guillemets, selon l'inscription sur le fronton à l'entrée. 30 jours dans des conditions sanitaires déplorables, à 6 dans une cellule prévue pour un seul détenu. Un seul seau d'eau pour tous les besoins, boire, se laver et nettoyer le trou d'aisance. Nous couchons à tour de rôle sur 3 paillasses et couvertures remplies de poux et de punaises. Très vite, en région de mon jeune âge, je suis pris en charge par la Croix-Rouge et logé dans une chambre de l'hôtel Maria. Je suis séparé de mon frère Auguste qui ira, lui, au camp Miranda de Ebro. Pour moi, ce sera Malaga, puis sur le cargo Gouverneur Lépine, escorté en mer par des torpilleurs anglais et pour une direction à Casablanca. J'y débarque le 4 novembre 1943 et je retrouve un des frères Faisan. Voilà, je rappelle le titre de votre ouvrage, Agnès Loizabal, Le Passeur aux éditions Confident. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que cette question, vous l'évoquiez tout à l'heure, du tarif des passeurs.
Oui.
Je n'avais jamais trouvé dans aucun livre, j'ai lu plusieurs livres effectivement sur les passeurs, je n'avais jamais trouvé aucun livre sur le tarif que prenaient les passeurs.
Oui.
Là, vous le trouvez dans un des livres, je suppose que c'est quelque chose qui n'a jamais été évoqué par des passeurs durant la Seconde Guerre mondiale ou par des témoignages que vous avez pu avoir.
J'ai l'impression que les passeurs avaient... il leur a peut-être été reproché d'avoir fait payer. Mais le prix du passage n'était pas pour la poche du passeur. Croyez-moi, je peux vous dire que mon père, à la fin de la guerre, il n'avait pas un rond. Hein. Mais seulement, il fallait faire tourner la machine. Je cite dans mon livre un exemple. Un des chefs de réseau fait une note de frais et par exemple il dit que il faut récupérer des alliés mettons qui viennent de Bordeaux jusqu'à Dax donc il faut pour qu'ils descendent avant 20 km avant la gare de Dax, parce qu'il y a, pour éviter les Allemands qui sont sur le quai de la gare, eh bien à ce moment-là, il faut payer le mécanicien, puis le copain du mécanicien, pour qu'il arrête.
Il faut payer
également les personnes qui vont accueillir, mettons, ces deux alliés, pour qui vont les cacher, qui vont les nourrir, qui vont les mettre en civil. Voyez, c'est...
Payer les faux papiers, parce que ça, je suppose aussi que payer les faux papiers, ça devait coûter très cher.
Il faut faire tourner la machine, donc c'est vrai que tout se paye. Alors, il y a eu aussi des brebis galeuses. Mais d'après, par exemple, Émilienne Yéchen et puis un autre dont j'ai oublié le nom, historien, dans le département, il y a eu 1,7% de brebis galeuses.
C'est vrai que bon, ces brebis galeuses, effectivement, après, on a beaucoup parlé parce qu'ils ont fait effectivement beaucoup de mal. Leur but, effectivement, alors il y avait certainement d'autres raisons, effectivement, à cela. Philippe Subercase.
Pourquoi alors avoir mis dans votre livre le coût du passage ? Qu'est-ce que vous vouliez dire par rapport à ce coût ? Vous auriez pu, comme dit Philippe Noni, le passer sous silence ?
Oh non, non, parce que le passer sous silence serait vraiment dire ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ils se sont enrichis. Non, d'accord. Il faut expliquer aux gens.
Oui.
Il faut donner des exemples, il faut absolument expliquer. Ça, j'y tenais. J'y tenais. Et d'autant plus que avec les témoignages que nous avons, combien de témoignages nous avons eu, parce que tous ne sont pas dans le livre, et évidemment, parce qu'il faudrait plusieurs volumes. Les témoignages nous disent, certains, je n'avais pas un rond, je suis arrivée à Pau, j'étais cachée à la chapelle de Rousse, je vais trouver Michel et je lui dis, je veux passer, mais j'ai rien, j'ai pas un sou. Eh bien, viens à telle heure et tel endroit, et puis tu vas passer. Voilà.
Eh oui.
Combien il en a fait passer comme ça sans avoir... Nous avons des témoignages d'un gars qui a été gendarme après la guerre, qui nous a dit, deux jours avant, j'ai eu le gîte et le couvert chez lui et j'avais rien pour le payer, il m'a passé quand même. Donc, ça fait un équilibre.
Oui.
Alors, je voudrais dire un mot, Philippe Subercase, aussi sur les éditions Confident. Parce que les éditions Confident, elles ont publié votre récit, Agnès Loizabal, Le Passeur, c'est héros de la résistance, oui, qui a conduit 953 personnes en Espagne, mais ils ont publié aussi d'autres récits. Dont je voudrais parler, parce que vous allez voir qu'ils sont liés à ça. Par exemple, il y a eu le cinquième homme. Hein, donc là, c'est Hydron, oui, environ de Pau, 15 juin 1944. Vous allez voir, cette histoire, elle est quand même assez incroyable. Cinq hommes sont fusillés par les troupes allemandes. Trois inspecteurs de la 17e brigade de police judiciaire, un jeune maquisier et un individu non identifié. Policier en poste dans le même service que celui de son grand-père fusillé à Hydron, Éric Amouraben, qui est l'auteur de ce livre, rouvre en 2008 le dossier avec un but qui va tourner à l'obsession, donner un nom à l'inconnu assassiné le 15 juin 1944. Il lui faudra plus de 10 ans pour y parvenir, au terme d'une enquête unique en son genre, mettant à profit son expérience de flic et toutes les ressources de la police scientifique. Donc vous voyez, cette maison d'édition, son ADN, c'est quand même effectivement de ressortir tout ce qui concerne effectivement des récits qui tournent autour de la Seconde Guerre mondiale. Il y a également alors un autre livre, celui-là je compte bien le lire, qui s'appelle « Sanglante randonnée ». C'est la 8e compagnie Brandebourg contre la résistance. Donc je lis le thème. L'une des formations militaires allemandes les plus brutales de toutes celles qui furent employées en France dans la lutte contre la résistance était composée de volontaires français. Opérant en civil, en uniforme ou dans la tenue de leurs adversaires, les soldats de la 8e compagnie du 3e régiment de la division Brandebourg se rendront responsables de plusieurs centaines d'assassinats, notamment dans le sud-ouest, en Provence et en Alsace. Repliés en Allemagne, ils rejoindront les commandos de la SS, menant des missions derrière les lignes ennemies, avant d'être versés dans le Werwolf, ce mouvement de résistance voulu par les nazis les plus fanatiques. Certains tomberont sous les balles des pelotons d'exécution de l'épuration, d'autres partiront se battre en Indochine. C'est l'histoire de ces hommes que retrace cet ouvrage. J'en parle pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'en Indochine, la moitié des légionnaires qui vont combattre pendant la guerre d'Indochine sont des soldats allemands.
Oui.
Ou des soldats français qui ont combattu du côté
ayant
des Allemands.
Combattu, oui.
Voilà. Et pour ne pas être enfermé, la moitié, on avait reçu le général Latane, je ne sais pas si vous vous souvenez, Diego Arrabal et Philippe Subercase, qui nous disait qu'effectivement en Indochine, qu'elle était sous-lieutenant là-bas à Dien Bien Phu, la moitié des légionnaires avec qui il avait combattu, effectivement, étaient des soldats allemands. Et d'ailleurs, ils parlaient, rappelez-vous, de leur courage et que l'un d'eux l'avait sauvé lui avait sauvé la vie pendant la bataille, pendant la bataille de Dien Bien Phu. Voilà. Et donc, beaucoup de ces soldats. Et je voulais signaler quand même que cette maison d'édition qui a publié votre ouvrage, hein, Aniel Olazabal, Le Passeur, ce héros de la résistance qui a conduit 953 personnes en Espagne, est aussi une maison d'édition qui est spécialisée dans ces éléments-là. Et j'invite les auditrices et les auditeurs à aller sur leur site. Parce que tous ceux qui s'intéressent, toutes celles et ceux qui s'intéressent à cette personne, qui plus est, hein, dans le sud-ouest de la France, hein, alors là on parle du Pays Basque avec vous, mais qui s'intéressent au sud-ouest de manière plus large, vont vraiment trouver des ouvrages qui sont extrêmement intéressants, je trouve, pour aller dans cette période. Est-ce que vous, Aniel Olazabal, après Le Passeur, vous avez prévu de sortir un autre ouvrage ou pas sur cette période ?
J'aimerais, mais à mon âge, faut être raisonnable. Et parce que, oui, pourtant, voilà. Mais je m'en suis beaucoup vue techniquement. J'ai découvert l'ordinateur en écrivant le livre, donc c'est pas facile. Si j'avais eu quelqu'un à qui je puisse dicter. Et qui me fasse le côté technique, s'il m'enlève le côté technique, oui, j'aurais plein de choses à raconter. Mais bon, il paraît qu'il ne faut jamais dire jamais, donc on verra. On verra. Bon, je ne sais pas.
Vous nous recontactez, que... hein, Aniel Olazabal, si vous écrivez quelque chose, vous pensez à la présence. Hein. Philippe Subercase.
Oui, une question.
Je voulais, puisque vous avez eu la gentillesse de parler de sanglante randonnée, sans sanglante randonnée, je n'écris pas. Parce que c'est mon ami Éric Amouraben. Alors je dis mon ami parce que c'est vraiment mon ami, parce que je le connais personnellement. On n'en avait pas parlé en dehors de l'émission. Et il me dit, Annie, il faut que tu lises ce livre. Il y a tout un chapitre sur ton père. Et il me donne Sanglante randonnée. Et je découvre tout un chapitre sur mon père. Et je dis, mais où c'est qu'il a eu cet auteur, où c'est qu'il a eu ça que je n'avais pas trouvé? Et je cherche bien évidemment partout. Je cherche bêtement le nom de l'auteur sur Internet et bien sûr que je ne trouve pas. Et Eric me dit, mais non Annie, téléphone. Bon, il n'est pas flic pour rien. Hein. Il me dit...
c'est un avantage ça.
Oui, joins l'éditeur et il va tu lui dis de passer tes coordonnées, il va certainement te rappeler. Effectivement, c'est ce qui se passe. Et Olivier Pigoro, qui écrit Sanglante randonnée, m'appelle. Et il me dit que je suis ravie d'avoir quelqu'un de la famille d'un personnage dont je parle. Bon, on échange. Je lui dis tout ce qu'on a trouvé depuis des années. Et je lui dis que tout ça, c'est dans des chemises cartonnées et qu'on garde ça pour les enfants, pour nos enfants. C'est notre trésor. Voilà. Et il me dit, j'ai quelques pièces que je vais vous envoyer en pièces jointes, si vous voulez, que je n'ai pas mis dans ce chapitre. Et voilà, donc il me les envoie. Bien évidemment, je suis une fille polie. Je le rappelle pour le remercier, pour lui dire que bon, que je suis très contente de découvrir ça. Et il me dit, mais vous savez, en recherchant les pièces, mais tout m'est revenu, mais il faut faire un livre. Et je lui dis, oui, mais moi, je ne sais pas écrire. Mais non, mais on va vous aider, là. Et il insiste, il m'appellera 5 fois cet homme. Et il me dit, à la 4e fois, me dit, si vous voulez, je suis votre éditeur.
Ah alors, oui, effectivement. Là, ah oui.
Ça change.
Là, ça change tout, oui.
Là, ça change. Voilà. Et effectivement, il est devenu mon éditeur. C'est lui qui m'a poussé. C'est lui qui m'a poussé à écrire. Et c'est merveilleux.
Il a bien fait à Aniel Olazabal.
J'allais vous poser la question.
Je lui suis infiniment reconnaissant d'avoir laissé mon style, d'avoir laissé mes mots et d'avoir laissé mes émotions. Il n'a pas cherché, moi je ne suis pas historienne, je n'ai pas fait des hautes études, ça se sent, mais il n'a pas cherché à me faire employer des termes très compliqués, ainsi de suite. Non, il n'a rien changé.
Philippe Subercase, vous avez une question.
Oui, j'allais vous poser la question, comment vous êtes arrivé à l'écriture de ce livre. Vous avez un peu dévoilé les coulisses avec ces appels incessants de ce monsieur qui est devenu votre éditeur.
C'est presque du harcèlement d'ailleurs,
Et aujourd'hui ce livre-là, mais c'est un joli témoignage aussi que vous rendez à votre père, à votre maman aussi, puisqu'elle était derrière aussi et elle a aussi souffert du fait que votre père était dans la résistance. C'est la première fois que vous n'aurez jamais pensé écrire un livre dans votre vie?
Jamais, ouais. Jamais. Mais vraiment jamais. Vous savez, moi j'ai mon certificat d'études et puis après j'ai bossé. J'ai d'abord été coiffeuse et après j'ai fait les métiers de l'hôtellerie. PMU, bar, hôtel, voilà. Et donc, j'ai jamais pensé que ça m'était permis. Nous, fils d'eux, et vous, bien évidemment, on doit absolument passer cette mémoire, la mémoire de
Exactement.
Ces hommes. Mais
tout
pas que de mon père, tous ces hommes qui passaient avec lui, c'était les hommes tout aussi courageux que lui. Et si nous ne réussissons pas à passer cette mémoire, nos enfants et petits-enfants n'auront plus d'histoire. C'est leur racine.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci Annie.
Annie Olazabal.
Merci mille fois.
Merci
bien. Au revoir à tous les auditeurs.
Au revoir. Au revoir Annie. Au revoir.
Au revoir.
Merci.